J'ai choisi la facilité. Voilà. Je ne sais pas si c'est la chaleur de l'été, la torpeur, les étapes passionnantes du Tour de France, ouais, cette atmosphère de vacances. Enfin bref, je n'avais pas envie de me creuser la tête pour trouver un thème ou un texte pour la prédication de ce matin. Voilà, je vous le dis. Alors j'ai pris un de mes textes préférés. Voilà, un de mes textes qui, pour moi, me fondent, un des textes qui me nourrissent. Et puis j'avais envie de revenir à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Voilà, et tout ça m'a fait choisir quelques versets du chapitre 21 de l'évangile de Jean, qui pour moi est, sans être un texte fondateur, mais en tout cas de ma foi, pour ma foi, c'est un texte qui est important. Voilà, avez-vous quelque chose à manger? Je crois que ce matin, ce serait plutôt, est-ce que vous avez quelque chose à boire, mais voilà. Je vous propose de lire ces versets. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Et voici comment il se le manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui dirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu ce qu'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. J'ai choisi ce texte parce que, et j'aime ce texte parce que j'aime la simplicité. La simplicité de ce texte, la scène du quotidien pour les disciples. Et je trouve que ce texte, l'histoire qui est racontée, eh bien, illustre bien nos rapports entre Jésus, enfin les rapports entre Jésus et nous. Et c'est vrai que dans la Bible, eh bien, il y a des textes, j'imagine que c'est pareil pour vous, qui vous parlent plus que d'autres. Hein, certains qu'on aime particulièrement lire parce que, eh bien, ils nous renvoient à une période de notre vie ou parce que ce texte, eh bien, voilà, va directement à notre cœur. Et comme je l'ai dit, eh bien, j'aime la simplicité de ce texte. Parce que, remettons-nous un peu dans le contexte, Jésus vient de ressusciter, il vient quand même d'accomplir le plus grand miracle de tous les temps. Il n'y en aura plus jamais d'aussi grand. Hein, il est mort, il est ressuscité. Et il est là, sur le rivage, à côté de ses disciples. Et je trouve que c'est aussi un texte qui est pour moi encourageant, réconfortant, qui est paisible aussi, parce qu'il y a de la paix dans ce texte. Et Jésus n'est jamais dans la démonstration de puissance. Et c'est vrai qu'après la résurrection, il aurait pu venir en marchant sur l'eau, hein, il l'a déjà fait, il aurait pu venir avec des éclairs, du tonnerre, il aurait pu venir accompagné d'une nuée d'anges, enfin pour célébrer et montrer sa puissance, hein, on l'a partagé ce matin. Eh bien non, pas du tout. Jésus est là, seul, au bord du lac, et il s'adresse à ses disciples. Et il n'est tellement pas dans la démonstration de puissance que finalement ses disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. C'est seulement à la fin du passage que les disciples reconnaissent Jésus. Enfin, un disciple reconnaît Jésus. Et il leur pose, Jésus pose une question toute simple. Mes enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et c'est le début de ma première partie que j'ai intitulée « Prendre conscience de notre besoin de Dieu ». Alors représentez-vous la scène, hein, les disciples pêchent, ils sont actifs. Sans être productifs, ils ont passé la nuit à pêcher, sans prendre le moindre petit poisson, rien, rien du tout. Et Jésus est sur le rivage et leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Et je trouve que cette scène est à l'image de notre relation avec le Seigneur. Nous sommes, nous aussi, dans l'action, et puis le Seigneur nous regarde, il est au bord du rivage, et puis il nous regarde faire. Et puis nous aussi, on peut être plus ou moins efficace. Jésus, quand on entend Jésus, je trouve qu'il y a comme une interpellation. Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Avez-vous de quoi vous nourrir, si on le dit autrement ? Et si je généralise la question de Jésus, si je prends un petit peu de hauteur par rapport à cette question qui porte sur un besoin essentiel, qui est la nourriture, je pourrais le reformuler en disant « Est-ce que vos besoins sont satisfaits ? Est-ce que tout va bien pour vous ? Et si je prends encore un peu plus de hauteur, finalement, est-ce que vous êtes heureux ?» Et je crois que cette question, est-ce que vos besoins sont satisfaits, est-ce que tout va bien pour vous, je crois que cette question ne s'adresse pas uniquement aux 7 disciples bredouilles qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je crois que cette question s'adresse aussi à nous. Est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Et je crois que Jésus, encore une fois, se tient sur le rivage de nos vies et nous pose à chacun d'entre nous ce matin, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Est-ce que tu as de quoi te nourrir ? Alors ça peut être physiquement, bien sûr, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que nous avons de quoi nous nourrir spirituellement, moralement, intellectuellement, en termes de relations aussi ? Est-ce que nous avons de quoi nous nourrir ? Et nos réponses peuvent être différentes. Un peu à l'image de la parabole du semeur que Jean-Marc a évoquée la semaine dernière. Comme Jean-Marc m'a cité 2 fois la semaine dernière, je me sens un peu redevable et voilà, je le cite aussi ce matin. Donc l'excellente prédication de Jean-Marc la semaine dernière. Au-delà de ça, comme le semeur, la parole semée peut tomber dans des terres différentes. Nous aussi, la question, notre réponse à cette question, avez-vous de quoi vous nourrir, peut être différent. Alors je me suis livré à une sorte d'évangile fiction. J'ai imaginé quelles auraient pu être les réponses que les disciples pouvaient faire à la question de Jésus, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Question que nous pourrions faire aussi, nous. Et la première possibilité pourrait être de ne pas entendre la question, de faire comme si rien n'était, être tellement concentré sur son activité que finalement la question que me pose Jésus, est-ce que j'ai quelque chose à manger, est-ce que j'ai de quoi me nourrir, je ne l'entends même pas. C'est un peu le syndrome de la cage ou la roue de hamster. Là, on a l'impression d'être dans l'activité, de courir très très vite, d'avancer, de me dépenser beaucoup, de pêcher toute la nuit, et en fait, rien. Je ne me rends même pas compte que je dépense beaucoup d'énergie, en fait, pour rien, je suis fait du surplace, et en plus, je suis dans la cage, mais je ne m'en rends pas compte. Mais le Seigneur, je n'ai même pas le temps de me poser cette question de savoir si je suis bien nourri. Moi, je suis débordé, ma femme est débordée, mes enfants sont débordés, mon chien est débordé, enfin bref, je ne peux pas, je n'ai franchement pas le temps de me poser ce genre de questions. Vous savez, ça me rappelle l'épisode d'Agar. Vous vous souvenez d'Agar, servante de Sarah, et Abraham l'a renvoyée. Voilà, je la fais courte, l'a renvoyée dans le désert avec Ismaël. Dans le désert, il fait chaud, évidemment, elle est en train de mourir de soif. Et elle est en train de mourir de soif à côté d'une source. Et cette source, elle ne la voit pas. Et si je reviens à ce texte, quelques versets, c'est dans Genèse 21. Dieu entendit le garçon, Ismaël. Et le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Le puits était là, à côté. Et elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Et nous pouvons parfois mourir de soif à côté de la source d'eau vive qui est Jésus. Parce que nous n'entendons pas, ou nous ne voulons pas entendre, la question que nous pose Jésus ce matin à chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez de quoi manger ? Une autre réaction possible est là de faire semblant de ne pas l'entendre, cette question de Jésus. De mettre son mouchoir par-dessus, enfin bref, vraiment de la mettre de côté. Alors là, j'ai poussé à fond l'évangile fiction, j'ai imaginé un dialogue entre Pierre et Jean. Jean qui parle dans le bateau. À propos de l'interpellation de Jésus, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Pierre, t'as entendu ? Le gars sur la plage, là, il se moque de nous, on a pêché toute la nuit, et il vient nous demander, on n'a rien pris, et il vient nous demander si on a quelque chose à manger. Franchement, il y en a qui se croient plus malins que les autres. Pierre, oui, moi ça m'énerve, attends, tu vas voir, je vais lui dire ma façon de penser. Jean qui répond, suivez. Allez, laisse tomber, va. Hein, ça vaut pas la peine. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Et puis jette le filet, et on va bien finir par attraper quelque chose. Et je crois que nous aussi, eh bien, nous pouvons faire semblant de ne pas entendre l'appel de Jésus. Pour des raisons différentes, hein, mais nous ne sommes pas prêts à lui répondre. Et tout ça, comme j'ai dit, de ne pas entendre la question ou de faire semblant de ne pas l'entendre, ça c'est de l'évangile fiction, parce que les disciples, eux, répondent quoi ? Ils répondent honnêtement et simplement non. Non, nous n'avons rien à manger. Et deux choses sur ce non. La première est que, évidemment, Jésus connaissait la réponse. Il n'avait pas besoin d'entendre la réponse pour connaître la situation. Mais si Jésus pose la question, eh bien, c'est parce qu'il attend des disciples qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont rien à manger. Et on peut aussi continuer ce parallèle avec nous, parce que Jésus attend aussi que nous reconnaissions nos manques, nos insuffisances. Il attend, d'une manière plus générale, que nous reconnaissions notre besoin de Christ. Et l'objectif de Jésus n'est pas de nous écraser de sa puissance ou de mettre en avant notre faiblesse. Non, l'objectif de Jésus, et c'est ma deuxième idée sur ce nom, est que nous prenions conscience de notre insuffisance et que nous la reconnaissions. Tant que nous n'avons pas pris conscience, profondément conscience, que nous avons soif de Dieu, que nous avons besoin de Dieu, eh bien Dieu ne peut pas agir en nous. Et je crois que c'est le principal obstacle entre l'homme et Dieu, ne pas avoir conscience de notre besoin de Dieu, de croire que nous pouvons vivre en toute indépendance vis-à-vis de Dieu. Il y a un proverbe qui n'est pas très valorisant, mais ça m'a fait penser à ce proverbe-là, qui est dans la Bible, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et la semaine dernière, j'ai fait passer des oraux de concours pour l'entrée dans une école, et l'étudiant qui était devant nous devait commenter une citation qui avait un rapport avec Dieu. Et il nous dit au cours de sa présentation que lui n'a pas besoin de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui pour prendre soin de lui ou d'avoir quelqu'un ou quelque chose pour s'appuyer de lui, s'appuyer dessus. Et ça, je crois que c'est, et je pèse mes mots au fond, c'est le drame de l'humanité. Penser qu'on peut ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Penser qu'on n'a pas besoin d'être en communion avec Dieu. Et penser qu'on n'a pas besoin de recevoir son amour. Et finalement, un des plus grands freins de l'action de Dieu dans notre vie, eh bien, c'est que l'on recherche l'autonomie, de pouvoir faire seul. Alors, il y a des domaines que l'on remet à Dieu, parce que vous savez, dans des domaines où on est un petit peu bancal, on ne sait pas faire, oula, il vaut mieux que je l'ai l'aide de Dieu. Mais des domaines où on maîtrise, et là, les disciples étaient des pêcheurs, donc ils maîtrisaient. Hein. Mais des domaines où on maîtrise, on a envie de dire, non, ça, c'est moi, ça. Ça, je m'en occupe, laisse, je gère. Et de dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand on prie pour que quelqu'un se convertisse, on pourrait affiner notre prière en priant pour que cette personne se rende compte qu'il est soif de Dieu. Parce que sinon, on ne peut rien faire. Si je n'ai pas conscience que j'ai soif de Dieu, que j'ai besoin de lui, que je suis aride, eh bien, je ne peux pas avancer. Et Dieu ne peut pas agir dans ma vie. Et si je reviens au texte, eh bien, les disciples reconnaissent simplement qu'ils n'ont rien pris. Non, nous n'avons rien à manger. Et là, Christ peut agir. Et c'est ma deuxième partie, voilà, oh là, je peux oublier, je vous fais le coup à chaque fois, en fait, je parle et j'oublie le diaporama. Voilà, deuxième partie, obéir dans les choses simples. Et si je reviens au texte, verset 6, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Et ça, c'est le conseil, si vous me permettez, c'est le conseil du gars qui est sur la plage à des pêcheurs professionnels. « Jetez le filet à droite du bateau, comme si les disciples l'avait pas fait de nombreuses fois au cours de la nuit. Imaginez, les disciples, ils ont jeté qu'à gauche le filet. Non, c'est leur truc, à gauche. Et Jésus arrive, essayez à droite. Mais non, ils ont à gauche, à droite, bref, ils l'ont fait plusieurs fois. Sauf que là, ce que demande Jésus est accompagné d'une promesse. Et vous trouverez. Parce que la difficulté ne réside pas dans l'action de jeter le filet. Ils savent faire, évidemment. Mais la difficulté réside dans la foi et l'obéissance. Obéir dans les choses simples, obéir à la demande de Jésus, avoir la foi que ça va fonctionner, obéir à la parole de Dieu, même si ça nous paraît simple. Alors je vais vous donner quelques exemples d'actions qui m'apparaissent être aussi simples que de jeter le filet à droite. Des choses que l'on sait faire, mais finalement notre problème, si on a du mal à les faire généralement, c'est pas que c'est compliqué, que ce soit compliqué techniquement, mais c'est parce que, eh bien, on a des soucis avec l'obéissance. Premier exemple, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret. Sur le papier, c'est facile. Au quotidien, dans la vraie vie, c'est plus difficile. Deuxième exemple, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, dans Matthieu 6, verset 12, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour vous. Ça aussi, pour eux, merci. Je vois que la torpeur de l'été ne vous a pas gagné, vous. Je vais vous passer mes notes, puis vous allez finir, en fait. C'est facile. Techniquement, là aussi, c'est facile. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse ? Qu'on ait du mal à le faire, on a besoin de se concentrer. Troisième exemple, là je vais me concentrer aussi, peut-être un peu plus difficile, dans Matthieu 5, versets 23 et 24. « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier entre ton frère. » Puis viens présenter ton offrande. Et là, ce sont des consignes, ces trois exemples-là, et on pourrait certainement en trouver d'autres, eh bien, ce sont des choses qui, techniquement, sont faciles à faire, aussi simples que de jeter le filet à droite du bateau. Mais la difficulté que l'on a pour les mettre en œuvre renvoie à notre obéissance et la confiance que ça va fonctionner. Suis-je prêt à obéir aux demandes simples et claires de Jésus ? Alors, je vous propose de revenir au texte. Jésus est sur le rivage, il leur a demandé s'ils avaient de quoi manger, de quoi se nourrir. Il leur demande de jeter le filet à droite du bateau, et là, miracle. On passe d'une situation de pénurie à une situation d'abondance. Il y avait tellement de poissons, eh bien, le texte nous dit qu'ils n'arrivaient plus à le hisser dans le bateau. Et si bien qu'ils ont été obligés de le laisser dans l'eau et de le tirer jusqu'au rivage. Et ça, c'est le cadeau lié à l'obéissance. Dieu donne et donne avec abondance. Mais il n'y a pas que l'obéissance qui a été nécessaire aux disciples. Il y a une autre qualité double qui a été aussi nécessaire, complémentaire à l'obéissance. C'est la patience et la persévérance. Si j'avais été dans le bateau, c'est peu probable, mais si j'avais été dans le bateau au moment où Jésus avait dit « jeter le filet à droite », j'aurais eu envie de dire « dis donc Jésus, tu ne pouvais pas nous le dire avant ?» On a passé toute la nuit, avec tout ce que ça veut dire, d'inquiétude, de stress, de tension peut-être entre les disciples. Et là, tu arrives, au moment où on va arrêter, parce qu'il fait jour, c'est là où tu arrives et tu nous dis « jette le filet à droite ». Tu ne pouvais pas le faire avant. Parce que, aussi incompréhensible que ça puisse paraître, eh bien, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et parfois, Dieu peut nous laisser, tout seul même, dans notre barque, la nuit, il peut même y avoir de la tempête. Jeter notre filet et ramener que de l'eau, ne rien ramener. Et la seule explication à cette situation est que Jésus ne cherche pas à avoir des disciples bien nourris, mais il cherche à avoir des disciples obéissants et persévérants, des disciples qui lui font confiance. Et nous sommes parfois dans la même situation que ses disciples, lorsqu'ils étaient au milieu de la nuit sur leur bateau. Nous jetons les filets et nous n'attrapons rien. Nous sommes actifs, mais sans être productifs. Il ne se passe rien, on ne porte pas de fruits. Et notre travail est stérile, et nous pouvons connaître le découragement. Et souvenons-nous que notre responsabilité première est de jeter les filets. Et les poissons, finalement, ce n'est pas notre responsabilité. C'est mieux s'il y en a du poisson, mais notre responsabilité de première est de jeter les filets avec obéissance et persévérance. Les disciples, toute la nuit, ils ont jeté le filet à droite, à gauche, et le temps de Dieu est arrivé. Au matin, quand Jésus leur a dit « jetez le filet », et là, ça a marché. Et je termine cette partie par deux versets de Romains 5, versets 3 et 4. « Nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance ou la persévérance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. » Je vous propose d'aller d'avancer un peu dans le texte et d'aller jusqu'au verset 9, qui est ma troisième partie. « Venez déjeuner ». Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Tout à l'heure, un petit peu plus haut dans le texte, Jésus leur a demandé, on s'en souvient, s'ils avaient quelque chose à manger. Et les disciples lui auraient répondu non. Et Jésus aurait pu leur répondre, eh bien, écoutez, venez déjeuner. J'ai préparé du pain, du poisson, voilà, c'est prêt, c'est cuit, à table. Non. Jésus leur a d'abord demandé de jeter le filet. Afin qu'ils attrapent leur poisson. Et je trouve que cette scène, eh bien, est une belle illustration de la coopération qui existe entre Dieu et nous, dans la répartition des tâches, si on peut dire. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. Jésus n'a pas besoin des disciples pour attraper du poisson. Et ce sont les fameux serviteurs inutiles dont il est question dans Luc, chapitre 17, verset 10. Serviteurs inutiles. Parce que le poisson était déjà là, sur les braises, il était déjà en train de cuire. En plus, il y avait du pain. Bref, tout était prêt. Et pourtant, Jésus a demandé aux disciples de jeter les filets. Pour ce repas, et puis pour le petit déjeuner, puisque c'était le matin, Jésus n'avait pas besoin des poissons pêchés par les disciples. Mais il les invite pourtant à apporter quelques poissons parmi ceux qu'ils ont attrapés. Et c'est la même chose quand on se met au service de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre temps, il n'a pas besoin de nos compétences, il n'a pas besoin de notre argent, mais il choisit de les utiliser dans son plan. Et ici, l'objectif de Jésus n'est pas d'avoir un méga petit déjeuner avec plein de poissons, parce qu'il n'en avait pas assez. Non. L'objectif, là aussi, de Jésus, est d'apprendre aux disciples l'obéissance et la confiance. C'est pour ça que je disais que c'était un bel exemple de coopération entre Dieu et nous. Et j'ai envie aussi de souligner le caractère de serviteur de Jésus. Il a allumé le feu, il a préparé les poissons. Il aurait pu tout à fait se contenter de dire « voilà, allez-y, pêchez, 153 gros poissons, parfait, vous les ramenez, je vous laisse préparer le repas. Hein. » Quand même, fils de Dieu, ressuscité, enfin, voilà. Non. Il a préparé le feu, il a préparé les poissons, il a préparé le pain. Et je suis admiratif de la simplicité de Jésus, de son caractère pratique. Ce n'est pas hautement spirituel. J'ai préparé un feu, du pain, des poissons. Hein, et de son rôle de serviteur. Et c'est lui qui les invite, verset 12. « Venez déjeuner. » Et je reviens sur la question de tout à l'heure. Avez-vous quelque chose à manger ? Et cet appel, « Venez déjeuner », est une réponse à cette question. Avez-vous quelque chose à déjeuner ? Avez-vous de quoi vous nourrir ? Et si la réponse est non, eh bien Jésus nous invite, « Venez déjeuner ». C'est une autre manière d'aborder le sujet qui a déjà été abordé par Jésus un petit peu plus avant dans l'évangile de Jean 6, versets 33 et 35. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus lui dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » C'est aussi pour ça que c'est Jésus qui prépare le repas, parce que lui seul peut apporter cette nourriture. Et je remarque aussi, je le redis ici, que les disciples donnent à Jésus les quelques poissons parmi ceux qu'ils ont attrapés. Et là aussi, il y a un parallèle avec nous. Parce que notre engagement dans le Seigneur, notre engagement dans l'Église, consiste simplement à lui rendre un peu de ce qu'il nous a donné. Si nous mettons nos dons, nos compétences au service de l'Église, à son service, c'est de lui rendre la compétence qu'il nous a donnée, qu'il nous a attribuée. Et l'argent que l'on peut donner à l'Église, c'est une partie de l'argent qu'il nous a permis de gagner, comme les poissons. C'est vrai que le Seigneur, ça fonctionne comme ça avec Dieu, au fond. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour que son royaume avance. Mais il l'a choisi et il choisit de nous faire coopérer. Et c'est l'occasion pour nous, dans notre service, dans notre engagement dans l'Église, pour le Seigneur, de lui rendre avec plus ou moins de générosité ce qu'il nous a déjà donné avant. Et c'est une façon aussi pour nous d'exprimer notre reconnaissance. Et avant de terminer, un petit mot sur Pierre. Pierre, c'est toujours le sympa de la bande, Pierre, parce que c'est toujours lui qui... Penser égale action, Pierre. Il pense un truc, paf, il le fait. Voilà. Et du coup, il est assez facile à comprendre. Il n'y a pas de pensée préalable. Donc lui, il voit Jésus, il le reconnaît, Jean lui dit que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il saute dans l'eau. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le seul à s'habiller avant d'aller dans l'eau. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Là aussi, de remettre dans le contexte, quelques temps avant, Jésus lui avait dit « Tu vas me renier ». Et Pierre avait dit « Alors là, s'il y en a un qui ne va pas te renier, c'est bien moi. S'il y a quelque chose qui t'arrive, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. » Et Jésus lui avait dit « Vous vous souvenez, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et c'est ce qui s'est passé. Pierre l'a renié trois fois avant que Jésus soit arrêté. Avant la crucifixion, pardon. Donc je me dis que Pierre, même s'il devait être content de rencontrer Jésus, il ne devait pas être très très à l'aise quand même. Parce qu'il y avait ça, sans doute, en arrière-plan. Et mon hypothèse est que, finalement, s'il saute dans l'eau, il y a peut-être, ça vient peut-être un peu de là, au-delà de son caractère impulsif. Ouais, il avait ça en fond d'écran, si je puis dire. Et je me dis que parfois, quand on a tourné le dos à Dieu, quand on s'est éloigné de lui, c'est pas facile de revenir à l'Église. D'abord parce qu'on peut affronter les regards des autres. « Ah, dis donc, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. » Ouais, plein de bienveillance. Ouais. Donc je me dis de revenir comme ça à lui, à Jésus, ça ne devait pas être simple pour Pierre. Et un petit peu après, dans le texte, eh bien, quand, c'est pas un passage que j'ai lu, mais vous savez que Jésus a donné l'occasion trois fois de dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et trois fois, Pierre a dit, mais oui, bien sûr, Seigneur. Et je crois que quand Jésus nous dit, dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ?» c'est la question aussi qu'il nous pose quand on s'est éloigné de Dieu, quand on lui a tourné le dos un temps. Et lorsqu'on répond oui à cette question, « Pierre, m'aimes-tu ?» et puis vous pouvez mettre votre prénom à la place, eh bien, le Seigneur nous accueille. Et quand Jésus dit, « Venez déjeuner », eh bien, cette invitation s'adresse aux sept disciples et à Pierre aussi, bien qu'il l'ait renié. Voyez. Et que même quand on s'est éloigné de Dieu, eh bien, cette invitation de venir déjeuner, de venir à la table de Jésus, s'adresse aussi à nous. Voilà. En conclusion, finalement, le message central de cette prédication est assez simple. Et Jésus nous pose la question ce matin, si on a de quoi se nourrir. Et si nous répondons non, eh bien, il nous invite au repas qu'il a lui-même préparé. Et il nous invite aussi à lui offrir les quelques poissons que l'on a à lui donner. Et on est appelé à répondre à cette question. Sommes-nous bien nourris ? Est-ce que nous avons une nourriture de qualité ? Physiquement, ok, mais spirituellement, moralement, en termes de relations. Qu'est-ce qu'on répond ce matin à cette question ? Et qu'est-ce qu'on répond à l'invitation aussi de Jésus qui nous invite justement à déjeuner à sa table. Et je vous invite à méditer sur ces questions. Et de prendre le temps aussi, ce temps d'été là, eh bien, est généralement un peu plus léger, mais de revenir à ces textes fondamentaux. On a parlé de la parabole du semeur la dernière fois, là c'est des textes aussi classiques, mais de revenir à ces paraboles et puis de prendre les temps de les lire, de les relire, de les méditer. Et vous voyez, je vous ai dit que c'était un texte fondamental pour moi, et je l'ai lu peut-être des dizaines de fois. Et en préparant cette prédication, eh bien, j'ai encore découvert de nouvelles choses. Et ne pensons pas que, ah oui, ce texte-là, cette histoire-là, je la connais, parce que c'est faux. Et quand on prend le temps d'étudier le texte, eh bien on découvre de nouvelles choses. Et c'est ce que je nous encourage ce matin et cet été à faire, de revenir aux fondamentaux des évangiles. Et je termine par ces quelques versets de Jean 4, versets 31-34. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et ma prière ce matin, eh bien, quand Jésus nous invite justement à sa table, eh bien, qu'il nous permet de découvrir ce pain-là, cette nourriture-là, de faire la volonté de Dieu pour accomplir son œuvre. Voilà, et que c'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Amen.